Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
What time is it now? Time is it now?
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide kick. Ricky.
Fever left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 437 du podcast Touchdown Actu. Alors, Mathé, très heureux de vous retrouver à mes côtés ce mardi pour débriefer la quatrième semaine de la saison régulière NFL 2021. Raphaël Masmejean est là, bonjour.
Salut à tous.
Grégory Richard, bonjour.
Bonjour messieurs, bonjour à tous.
Une petite nocturne hein, ce soir, on enregistre un peu plus tard, que d'habitude, ambiance hivernale.
Parce qu'il fait nuit plus tôt que tu dis ça.
Ça doit être ça.
Aussi,
ça
ouais.
doit être ça. Les Cardinals qui s'éclatent, les Cowboys qui défendent, les Seahawks à la relance et les Jets qui gagnent, c'est l'énorme info de la semaine. C'est le débrief de la semaine 4 et bah, c'est dès maintenant en fait.
What's going on? It's Keenan Allen with the LA Chargers. You are listening to Touchdown Podcast.
J'étais sur le point de m'enthousiasmer et de dire « Yes, on va enfin pouvoir renouveler notre stock de jingles de joueurs à Londres et tout ça parce que Greg y va ce dimanche pour voir les Falcons et les Jets. » Mais non, parce que tu n'auras pas le droit d'approcher les joueurs. Eh oui, ils ont peur
non,
de
non, 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 je vais les stalker un peu, hein, mais je pense que je vais me faire repérer assez vite.
Ben ouais, ils ont peur de tes sinus et de tes éventuelles projections. Donc pas d'approche de joueurs, mais on sera à Londres. Voilà, protocole Covid, donc tribune de presse only, pas de vestiaire et conférence de presse à distance. Donc voilà, ce sera bien, mais pas tout à fait comme dans le monde d'avant. Rams 20, Cardinals 37. Avec 35 points par match en moyenne, les Cardinals ont la meilleure attaque de la Ligue, oui, mais ils ont aussi une défense qui vient de limiter Matt Stafford, pourtant très en forme, à 20 points. Est-ce qu'on commence à prendre Arizona au sérieux, Raphaël?
Oui, je ne sais pas si on les a jamais pris au sérieux non plus. Hein. Je ne sais pas. J'avoue que je ne me souviens plus trop ce qu'on en disait. De mémoire, quand même, dans le power ranking d'avant-saison, ils n'étaient pas trop mal classés. Hein. Ils étaient dans un bon top 15 de mémoire, quand même. Mais oui, ils sont sérieux. Tu parles de la défense, forcément, qui fait mieux que l'an dernier, mais je trouve que quand même leur bonne prestation, à mon sens, sont quand même encore plus dues à un Kyler Murray qui semble avoir passé un cap cette saison. Mmh. Et même s'ils étaient déjà forts offensivement l'an dernier, je trouve que là, ils maîtrisent encore plus leur sujet offensivement et ça les rend peut-être encore plus redoutables. Ça les rend peut-être encore plus redoutables cette saison.
Greg, est-ce que Kyler Murray a passé un cap, un rock, une péninsule?
Oui, clairement. J'avais dit qu'il y a quelques semaines que ce qui m'inquiétait un petit peu avec Kyler Murray, c'était malgré tout le déchet qu'on pouvait voir dans son jeu. Hein. Malgré tout, ça fait partie, à raison, selon moi, des principaux candidats pour le titre de MVP désormais, surtout avec le statut d'Arizona de seule équipe invaincue à l'issue de cette quatrième semaine. Il y a quand même 4 interceptions, je crois, depuis le début de la
total,
saison.
Ouais.
De bêtises.
Ouais, ouais.
Voilà. Mais là, on voit que sur ce match-là, quand le jeu au sol est capable de vraiment l'épauler efficacement, le déchet, du coup, il y en a beaucoup moins. Et on voit un Kyler Murray qui est beaucoup moins contraint de surjouer. Et pourtant, en face, il y avait cet éternel duel, par exemple, entre DeAndre Hopkins et Jalen Ramsey, qui a été plus équilibré que d'habitude. Hein. Généralement, Ramsey met souvent à mal son vis-à-vis. Et là, ça s'est pas mal goupillé. Donc oui, en effet... De quoi tu veux...
Ouais, non, ça s'est moyennement goupillé parce que j'avais DeAndre Hopkins dans ma fantasy et crois-moi qu'il était bien muselé à mon avis. Hein.
Bon, ben voilà, après tout est relatif en fonction de ce qu'on attendait. Mais non, voilà, ça démontre en tout cas, on continue de voir un Kyler Murray fringant, mais en tout cas avec en plus un casting autour qui se met au diapason et ça ne fait que bonifier encore plus son jeu. Je trouve qu'en l'occurrence, on s'attarde beaucoup sur Lamar Jackson, etc., etc. Je trouve que vraiment Kyler Murray, c'est presque un Lamar Jackson qui a cette aptitude à être dangereux dans n'importe quelle possibilité, d'être vraiment dangereux verticalement, mais d'avoir quand même cette possibilité de se dégager de n'importe quelle pression et d'aller chercher les premières tentatives avec une vivacité déconcertante. Donc c'est vrai que dans son sillage, Arizona est pas mal, même si je persiste et signe pour voir si sur l'ensemble de l'exercice, ils arrivent à rester constants.
C'est un petit Lamar Jackson, tout mignon. C'est la version miniature pour ceux qui courent partout. 465 yards, 35 minutes de possession. C'est en effet assez terrifiant en attaque. Et tu l'as dit, il y a le jeu au sol qui est là. Chase Edmonds est à 120 yards. Ça confirme quand même un truc, moi, je trouve, c'est que ça court très bien avec Cliff Kingsbury depuis qu'il est arrivé. Je regardais, ils sont toujours dans le top 10 à la course. C'est quand même une marque de fabrique un peu aussi maintenant de cette attaque d'Arizona. Ça faisait partie de ces marques de fabrique déjà universitaires, non, je suppose, Greg?
C'est pas ce qui était le plus marquant du côté de Texas Tech, puisque c'était vraiment du gros système aérien, comme ce à quoi on pouvait s'attendre à son arrivée du côté de Glendale. Maintenant, si tu veux, c'est vrai que ces derniers temps, ils étaient souvent dans le top 10, mais aussi parce qu'ils avaient un quarterback qui était capable de vraiment optimiser les quelques brèches qu'il avait au sol. Là, on voit que et Edmonds et Connor, ils font plus de 160 yards à eux deux, je crois, sur ce match-là. Donc, en tout cas, c'est annonciateur de bonnes choses. Et voilà, je le répète, c'est pas forcément pour déplaire, je pense, à Kyler Murray, pour lui permettre de se focaliser sur d'autres choses que pour courir pour sa vie, on va dire.
On va pas débattre là-dessus. Alors, vas-y, Raphaël, tu voulais...
Non, j'allais dire, là-dedans, il y a quand même aussi, globalement, depuis plusieurs saisons, je trouve, du progrès sur la ligne offensive aussi du côté d'Arizona, que Rodney Hudson, leur nouveau centre, qui est arrivé par échange à l'intersaison, vient consolider un peu cet état de fait, je trouve, mais il y a une ligne offensive qui quand même est vraiment pas inintéressante, et notamment depuis ce début de saison. Donc le tout dans le tout, Kyler Murray qui progresse, la ligne offensive qui progresse, un duo de coureurs intéressant, tout se met en place, quoi.
Ouais, et juste pour conclure sur ce que je disais, ce qui est intéressant, et c'est en lien également avec le bon travail de la défense que tu mentionnais au début, Alain, c'est-à-dire que la défense, elle sait être opportuniste. On l'avait vu très forte à Tennessee, notamment en première semaine. Là, elle a été avant tout opportuniste, en sachant notamment créer des turnovers importants et en bonne position. Et ce qui est important, c'est que cette attaque, elle est capable de bonifier ça. Parce qu'en l'occurrence, on a une interception et un fumble forcé. Et ça se concrétise avec 14 points derrière. Et justement, à des moments qui permettent et à Arizona de lancer son match et à Arizona de faire le break pour définitivement prendre l'ascendant.
Mais alors justement, cette défense qui apporte des trucs, je voulais en parler au début, ça fait quand même aussi une différence. Est-ce qu'on est vraiment typiquement dans le côté attaque de feu, défense opportuniste, pensez Chiefs des trois dernières années, quoi, par exemple, Raphaël?
Est-ce qu'on est là-dedans? Je sais pas. Ça, ouais, peut-être. Ça demanderait être confirmé. Après, je trouve qu'ils ont des joueurs, et je pense notamment à Jordan Hicks, dont l'excellent début de saison fait beaucoup de bien à cette défense, et notamment au poste de linebacker. Il a eu quelques pépins de blessures les années précédentes, et je trouve que là, c'est en train de faire une vraie différence. Est-ce qu'ils sont opportunistes? Je pense qu'ils sont peut-être un peu plus qu'opportunistes, j'ai envie de dire. Je trouve que sur certaines séries, ils arrivent à montrer vraiment de la solidité défensive qui va au-delà, à mon avis, de l'opportunisme. Donc, moi, j'attends de voir avant. Je sais pas si je les qualifierais comme ça en premier, mais.
Sur ce match-là, hein. Après, depuis le début de la saison, ça a été moins marquant contre Minnesota de mémoire, mais globalement, depuis le début de la saison, je trouve que la défense est une belle surprise, en tout cas, est au même niveau globalement que l'attaque. Je précise juste que c'est quand je dis opportuniste, c'est vraiment juste sur ce match-là, même si en l'occurrence, il faut réussir à stopper un Matthew Stafford d'une attaque qui a quand même donné pas mal de maux de tête aux Bucks, par exemple, la semaine passée.
Et quand je voulais dire opportuniste, je me suis peut-être mal exprimé, moi, c'était pour dire qu'il pourra faire les minima et avoir des temps forts pour gagner les matchs. Voilà, comme
oui, oui, sans doute, sans voilà. doute. Il y a quand même des joueurs de talent sur chacune des lignes, donc ça aide aussi, quoi.
Sachant que Chandler Jones a quand même eu un match assez quelconque, et on voit malgré tout que la défense a répondu présent, donc c'est bon augure.
Les Rams retombent assez fort sur terre après leur victoire contre les Buccaneers. Ça reste une très bonne équipe, très complète. On va pas refaire l'apologie de tout le monde. Est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent fondamentalement sur ce match par rapport à ce qu'on savait de cette équipe? Greg, il a des grands yeux, il a l'air d'avoir un truc qui m'inquiète très fondamentalement.
Je crois qu'on est obligé de dire le run stop quand même sur ce match-là. Je veux pas dénigrer la prestation d'Arizona, encore une fois, de par ce qu'on disait, de par leur capacité malgré tout dans ce système-là de réussir à mettre en avant le jeu au sol. Mais c'est vrai que bon, là, en l'occurrence, ça, ils ont été très très clairement exposés. Et il y a deux trois actions, je pense notamment à un jeu où les linemen d'Arizona justement poulent que d'un seul côté, ce qui laisse une brèche énorme en plein milieu pour Chase Edmond justement d'aller chercher un gros gain. Voilà, ça, c'est quand même un type de jeu où ouais, le fait de voir que le deuxième rideau est complètement dépeuplé, ça interroge un petit peu sur une certaine naïveté sur certaines actions. Après, encore une fois, voilà, le niveau de l'attaque en face est tellement impressionnant depuis le début de la saison que bon, c'est un peu facile de les critiquer là-dessus et que moi, je m'inquiéterais pas complètement concernant Los Angeles. Ils ont encore beaucoup de playmakers en attaque et en défense, mais c'est vrai que le run stop, en l'occurrence, sur ce match-là, peut amener à interroger pour les entraînements de cette semaine.
Raphaël, quel point tu retiens, toi, pour les Rams?
Oui, j'allais aussi venir sur le run stop et peut-être, je les ai trouvés. Alors, c'est la première fois de la saison, donc ça sera à voir si ça se confirme ou pas, mais j'ai trouvé leur assez faible. Enfin, sur la couverture aérienne, il y a eu quand même quelques trous. Je pense à leur safety, notamment Taylor Rapp, qui s'est bien troué. Pareil, leur linebacker Kenny Young s'est quand même bien fait manger sur pas mal de réceptions au milieu de terrain. Bon, si le pass rush repart bien, si tout ça peut être gommé. Là, ça a été client sur ce match. Je sais pas si ça sera une tendance pour la suite, mais c'est peut-être des éléments à surveiller parce que un joueur comme Kenny Young qui avait fait un très bon début de saison, en sortant un peu de nulle part, faudrait pas que ce bon début de saison soit que 2-3 matchs et que derrière ça reste une faiblesse.
Juste pour la précision, en attaque, voir avec Stafford pour peut-être trouver d'autres cibles. On a vu qu'il a beaucoup insisté sur Cooper Kupp sur ce match-là parce que la connexion fonctionnait bien. Oui, 5 sur 13 à l'arrivée. Il a quand même été très très bien muselé par le backfield défensif des Cards.
Cowboys 36, Panthers 28. Les Cowboys ont-ils aussi une bonne défense? On parlait un peu des Cardinals qui se cherchaient ces dernières années. Est-ce que les Cowboys ont trouvé leur défense, Raphaël?
En tout cas, il commence à avoir des éléments vraiment intéressants en défense, ça c'est sûr. Dan Quinn fait pour le moment un bon taf. Moi, je trouve que c'est le backfield défensif, la bonne surprise. Ils ont un duo vraiment intéressant où t'as Diggs qui a ce côté playmaker, capable de faire l'interception, même si des fois il se fait avoir il mange un peu. Là, il a quand même été en difficulté face à DJ Moore, mais il est capable. Par un peu ses capacités de skill player à changer le cours du match. Et Andrew Brown de l'autre côté qui lui est beaucoup plus dans un style moins interception mais beaucoup plus solide sur la couverture. Donc j'aime bien ce duo de cornerback qui à mon avis est en train de faire très jeune duo de cornerback qui est en train de faire la différence pour eux. Et là c'est peut-être c'est peut-être la patte Dan Quinn de trouver un backfield défensif bien plus intéressant que ce à quoi on pouvait s'attendre.
Ouais, Trevon Diggs, 2 interceptions dans ce match, 5 au total. Choix du second tour l'an dernier, pour rappeler. Là, il explose vraiment. Greg, toi qui es quand même le plus proche de la draft dans l'équipe. Trevon Diggs, donc de l'an dernier. Micah Parsons, drafté cette année, qui a 17 plaquages, 2 sacs et demi, 7 quarterback hits, 2 passes déviantes, 2 matchs. Ils ont un duo là quand même hyper solide sur lequel construire. Alors, on va pas dire 10 ans parce que c'est la NFL et que c'est des défenseurs, mais peut-être 5 ans.
Oui. En l'occurrence, c'est vrai que Trevon Diggs, les deux profils, en l'occurrence, étaient très intrigants à leur arrivée en NFL, parce qu'en l'occurrence, Trevon Diggs, on rappelle, c'était un profil quand même encore en apprentissage, c'est ce qui fait qu'il était deuxième tour, ancien receveur notamment. Et on voit que ça lui permet notamment de pouvoir un petit peu se calquer sur les tracés des receveurs et avoir ce sens de l'anticipation qui lui permet notamment de pouvoir collecter les interceptions, meilleur intercepteur depuis le début de la saison, hein, si ouais. Je ne dis pas de bêtises. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, Micah Parsons, on pouvait l'attendre comme linebacker au début. On voit que la blessure de DeMarcus Lawrence a un petit peu poussé Dan Quinn et Dallas à s'adapter. Et en l'occurrence, il fait un bien fou sur ce premier rideau avec d'autres profils. Hein. Un Randy Gregory qui fait l'énième retour et qui, sur ce match-là, arrive à collecter deux sacs. Il y a un autre rookie, au Saudi Guizoua, sur l'intérieur de la ligne, qui a su apporter également avec notamment des plaquages pour perte et des sacs. Donc, très clairement, voilà, c'est un groupe qui reste encore relativement jeune. Mais en effet, c'est un groupe avec des dents longues également et qui est capable, ne serait-ce dans un premier temps que contre la passe, de pouvoir faire déjouer pas mal d'attaques.
Le jeu au sol est revenu en force hein, aussi quand même. 143 yards pour Ezekiel Elliott, 67 de plus pour Tony Pollard. Raphaël, je sais que tu pensais que la ligne avait un coup de moins bien depuis quelques temps. Là, c'est quoi? C'est la ligne ou c'est les coureurs? Te connaissant, c'est plus la ligne du coup, si les coureurs vont mieux.
oui, non, mais c'est. Je pense que on en a déjà un peu parlé la semaine dernière. Je pense que Ezekiel Elliott va un peu mieux parce qu'il est poussé dans ses retranchements par Pollard. Et donc, ça, je crois que ça lui fait quand même du bien de s'activer là-dessus. Mais c'est vrai que la ligne offensive, moi, m'a surpris. Elle semblait un peu vieillissante à l'orée de cette saison. Et finalement, Tyron Smith a retrouvé un excellent niveau. L'intérieur de la ligne peut paraître parfois un peu plus fragile, mais les brèches sont là, ils arrivent à faire avancer cette attaque. Donc c'est un peu la ligne, mais je reconnais qu'Eliott semble avoir retrouvé un peu du poil de la bête aussi, quoi.
Greg, avec tout ce potentiel aérien, avec cette défense dont on parlait, avec le jeu au sol, avec la ligne, sont prétendants au titre maintenant?
Oula.
Ah ouais, je vais loin.
J'étais pas prêt.
Semaine 4.
Bon, ils sont prétendants à remporter la NFC Est. Hein.
On le sait maintenant.
En tout cas, ils confirment, parce que c'est vrai que ces dernières années, on avait tendance sur le papier à se dire que Dallas avait la meilleure équipe pour éventuellement aller chercher la division. Alors, c'est sûr que l'année dernière, par exemple, les blessures de Prescott n'ont pas aidé. La défense aussi a joué un petit rôle là-dedans, je crois.
Non, mais c'est
voilà,
favori.
Voilà, là, en l'occurrence, il y a au moins la possibilité, encore une fois, de finir dans les quatre premiers et donc au moins de recevoir le premier tour des playoffs. Après, je ne sais pas, ça peut peut-être créer la surprise. Je te dirais peut-être. Je vais pas trop me mouiller pour l'instant. Demi-finale de conférence, ça me paraît déjà un bien bel objectif aujourd'hui pour Dallas.
Je reformule ma question pour Raphaël. Ils ont les armes pour se battre en play-off?
Oui. Pour moi, ils ont les armes à partir du moment où s'ils maintiennent ce niveau-là sans baisse spectaculaire de régime, t'as une attaque hyper équilibrée qui avance vachement bien. T'as une défense avec des playmakers. Voilà, je pense que le truc qui leur fera mal, c'est l'inexpérience en défense avec beaucoup de jeunes joueurs et potentiellement Mike McCarthy, dont j'ai encore quelques doutes de choix de coaching dans des moments clés potentiellement plus tard. Mais comme dit Greg, hein, ça peut être une équipe épouvantable, pas forcément bonne à jouer en playoff, parce que si le trio Gallup, Coupe... Cooper, les trois sont en forme, plus le jeu au sol, enfin, toutes les défenses en NFC sont pas capables de les arrêter facilement. Donc,
Même question pour les Panthers que pour les Rams tout à l'heure. Ils étaient invaincus, ils perdent leur premier match difficile en défense notamment, où ils ont donc été troués au sol. Sam Darnold a marqué, mais encore surtout au sol. Qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qui inquiète pour Carolina, Grégory?
Bah, on retient que c'est encore la fiche de 3-0 était intéressante pour construire de bonnes choses pour cette saison 2021. Après, encore une fois, voilà, on ne s'attendait pas spécialement à voir Carolina remporter la NFC Sud pour le coup. La saison est encore longue, mais voilà, ça rappelle qu'il va y avoir forcément dans un effectif qui reste relativement jeune et qui reste toujours un petit peu dépendant offensivement de Christian McCaffrey, hein, même si, encore une fois, tu l'as dit, Sam Darnold s'est pas mal démené, que ce soit à la passe ou dans les airs. Mais après, il peut pas faire de miracle avec une ligne offensive beaucoup plus poreuse, avec une défense qui, en effet, a beaucoup plus subi que ces dernières semaines. Ça devient quand même un petit peu plus léger. Il va falloir que tout le monde soit un peu plus à l'unisson pour permettre à Carolina de tenir sur la durée.
Raphaël, pour les Panthers, parce qu'on était à 3-0, on a fait l'émission la semaine dernière, Panthers, Broncos, faut-il y croire, tout ça. On savait qu'il y avait un risque que ça s'arrête. Est-ce que tu es inquiet pour eux?
Non, pas inquiet, parce qu'ils sont, ils ont des armes et des éléments pour rester assez solides. Et de toute manière, pas inquiet dans le sens que je ne les voyais pas faire une incroyable saison. Donc là, je trouve que s'ils arrivent à se maintenir à leur niveau actuel, pour moi, la saison est déjà meilleure que l'an dernier. Donc ils continuent leur phase de progression. Donc, je suis pas inquiet là-dessus.
Voir où on est la blessure de Jack Thompson en défense, hein. Ça peut être une grosse perte en l'occurrence, si vraiment c'est significatif.
49ers 21, Seahawks 28, début de match assez dingue puisque Seattle commence par 5 three and out pour un gain de moins 7 yards. Heureusement, ils se sont quand même réveillés en deuxième mi-temps avec 21 points de suite. Pendant ce temps, Jimmy Garoppolo quittait le terrain avec une blessure au mollet. Trey Lance n'a pas réussi à suivre le rythme. Ça fait beaucoup d'infos dans un match. Lance, c'est 9 sur 18, 157 yards, 2 touchdowns. 7 courses pour 41 yards, beaucoup d'imprécisions, il a 2 sur 6 sous pression. Ça a été difficile. A priori, on en reparlera jeudi dans les previews, mais il ne devrait peut-être pas avoir à jouer le prochain match titulaire parce que Garoppolo n'est pas si blessé que ça. Mais bon, on attendait, c'est quand même le numéro 3 de la draft. Greg, par rapport à ce que tu avais vu au niveau universitaire notamment d'ailleurs, est-ce qu'il y a des motifs d'espoir ? Est-ce qu'il avait l'air prêt ou pas assez ?
En soi, je trouve pas la prestation désastreuse. Alors après, c'est vrai que ça, voilà, les stats sont peut-être un petit peu gonflés par l'énorme problème de couverture sur le touchdown de Deebo Samuel. Mais en l'occurrence, voilà, dans les circonstances dans lesquelles il arrive dans une mi-temps où il n'y a pas grand chose qui a tourné dans le sens des 49ers, bon, il n'a pas démérité, il se fait pas intercepter, il apporte sa contribution au niveau du jeu au sol. Mais ouais, très clairement, c'est un match pour San Francisco qu'il faut oublier parce que tu as presque l'impression qu'ils ne voulaient pas gagner ce match, quoi. Tu regardes statistiquement, c'est un match qu'ils doivent gagner 15 fois.
Ouais.
Et bon, pour une fois, on sait que Seattle, depuis le début de la saison, je ne vais pas tout dire en même temps, mais on sait que Seattle, depuis le début de la saison, joue une mi-temps sur deux. Bah, manque de bol pour San Francisco et ils ont décidé de jouer à la fin cette fois-ci. Et bon, ça ne recondamne rien, mais ouais, je ne suis pas forcément inquiet par la prestation de Trey Lance. Mais bon, faudra voir très clairement si c'est Garoppolo ou Lance. J'ai pas dans l'idée que Garoppolo ait été décoiffant en première mi-temps non plus.
Alors Raphaël, toi qui la dernière fois nous a dit que Garoppolo bridait cette équipe, hein, plus ou moins, si je dis pas de bêtises, des 49ers, est-ce que tu es prêt à mettre Trey Lance à la place?
Non, je suis pas spécialement prêt à mettre Trey Lance. Il a montré que c'était un rookie, clairement. Il y a eu des choses pas très jolies, quelques lancers, mais bon. Après, voilà, c'est pour ça que Kyle Shanahan choisit Garoppolo en titulaire. C'est que Garoppolo apporte plus de certitude pour gagner. Je veux bien le croire, vu ce qu'on a vu. Donc, j'ai pas de, là-dessus, effectivement, je pense pas que ça vaille le coup de changer maintenant. Et, pour mettre Trey Lance, ça vaut pas forcément le coup. Après, les 49ers, pour moi, perdent ce match en première mi-temps. C'est parce que quand Seattle est autant en galère en première mi-temps avec, comme tu l'as dit, 5 séries de suite, être à 7-7 à la mi-temps, plus les erreurs en special team, la roulade du mec qui re-rentre pour le touchback, enfin,
c'est la blessure du kicker.
Oui, enfin, c'est ça. Voilà, il y a eu beaucoup de pénalités, il y a eu des erreurs sur les équipes spéciales, il y a un kicker blessé. Enfin,
c'est ça, c'est qu'on le sait, Seattle, c'est une équipe à réaction par moment, tout ça. Clairement, ce match, quand j'ai vu San Francisco n'être qu'à 7-7 à la mi-temps avec un Seattle pareil, je me suis dit, bah, ils vont le perdre celui-là parce que derrière, enfin, derrière, ça va, il y a un moment où ça va enchaîner du côté de Seattle et c'est ce qui s'est passé. Et donc, les 49ers se sont clairement tirés une balle dans le pied sur celui-là. Fin...
Oui, d'ailleurs, Seattle prend 457 yards sur le nez, mais 28 points seulement. Est-ce que c'est, mais 21 points d'ailleurs seulement, je ne dis pas de bêtises. Mm-hmm. Est-ce que c'est un bon signe pour la défense de Seattle ? Comment on peut interpréter ça?
Plier,
mais pas rompre.
Je vois bien Pete Carroll dans les causeries faire bon, les gars, si on prend 450 yards, ça devrait bien se passer.
Voilà. Non, je sais pas, c'est le plier, mais ne pas rompre à l'extrême, quoi.
Ouais, là, quand même, comme on l'a dit, il y a quand même beaucoup de choses qu'on fait que du côté de San Francisco, on s'est un peu tiré une balle dans le pied. Il y a eu des bonnes choses, hein. Je pense, par exemple, au sauvetage de Jamal Adams sur le presque touchdown de George Kittle. Je crois d'ailleurs que George Kittle a toujours pas marqué le moindre touchdown contre Seattle en quatre saisons. Je crois avoir vu passer un truc comme ça. C'est bon, on va dire qu'en, comme disait Raph, ils ont eu l'opportunité de voir que l'équipe en face avait du déchet. Dans la finition, je parlais du botteur, c'est pas à tort, hein, parce qu'en l'occurrence, il y a quand même 4 points qui sont abandonnés en cours de route. Au moins, ces 4 points-là, de par les loupés du punter qui avait pris la place pour les kicks. Donc, ouais, on va dire que c'est passé sur ce coup-là et c'était le plus important parce qu'il fallait pour Seattle se remettre en selle avec un début de saison un peu compliqué. Mais ouais, faut continuer de revoir la copie parce que là, défensivement, je suis pas du tout rassuré. Et même en règle générale, offensivement, c'est un peu trop par intermittent.
Ça, ça reste très inconsistant hein, quand même. Mmh. C'est très. Oui, c'est il va falloir en effet confirmer tout ça. Jets 27, Titans 24. Après prolongation, quelqu'un a fini par perdre contre les Jets. Cet honneur revient donc aux Titans. Les Jets, ils mettent un point d'honneur à pas avoir le premier choix de la draft tous les ans. Juste, juste être sûr. Ils ont failli égaliser avec un field goal en fin de prolongation, mais raté par Randy Bullock. Est-ce que la défense des Titans est si catastrophique que ça, ou est-ce que les Jets ont fait un bon match?
Catastrophique. Je ne sais pas si la défense de Tennessee est catastrophique, mais bon, on avait. Il y a eu quand même une petite rébellion de la part des Jets. Très clairement, sur ce match-là, ça a été assez marqué, notamment dans le domaine aérien. Après, c'est sûr que du côté de Tennessee, voilà, il y a toujours cette difficulté à mettre un petit peu de pression. Faut pas oublier qu'un bot de prix, par exemple, est retombé dans ses abonnements quotidiens à l'infirmerie, donc ouais, ça n'aide pas spécialement à avoir une défense contre la passe suffisamment intimidante, je trouve. Et puis, au-delà de la défense de Tennessee, encore une fois, c'est aussi l'attaque. Certes, il leur manquait leurs deux receveurs principaux avec Julio Jones et AJ Brown, mais il y a une ligne qui continue de souffrir énormément. Je crois que c'est l'équipe qui concède le plus de sacs depuis le début de la saison. Ils n'ont pas affronté que des monstres en défense.
Oui, il a été saqué, j'ai pas le total, mais il a été saqué sept fois, donc je sais pas combien ils en sont au total, mais ça fait haut.
Et on retombe un peu, je trouve, sur certaines séries, sur le côté un petit peu prévisible de première Derrick Henry, deuxième Derrick Henry, troisième passe incomplète. C'est un peu le souci.
Oui, Derrick Henry a eu 33 ballons, 157 yards. Donc, clairement, lui, il a fait ce qu'on lui a demandé. Hein, mais c'est une équipe qui, en effet, est dans une configuration compliquée, Raphaël. Et c'est surtout qu'on ne voit pas comment ça pourrait s'améliorer.
Oui, c'est la configuration, effectivement. Je ne sais pas si c'est celle exactement à quoi on s'attendait. On ne s'attendait pas à ce qu'ils perdent face aux Jets. Mais disons que les lacunes qu'on voit des Titans là sont un peu ce qu'on imaginait. C'est une défense qui est pas assez costaud, qui manque de playmaker, et notamment dans le backfield défensif ou en dehors de Kevin Byard. C'est pas évident. Enfin, on a Fulton qui certes fait une interception, mais qui est quand même battu sur pas mal de réceptions. Le corps de linebacker a été assez transparent sur ce match. Voilà, ça manque de talent, j'ai envie de dire, en défense. Ils arrivent pas à régler ça depuis plusieurs saisons. Et en attaque, la prestation en attaque, elle est difficile, pareil, à analyser, parce que quand même, c'est vrai qu'il leur manque leurs deux meilleurs receveurs et c'est toujours compliqué. Oui, la ligne offensive est pas bonne depuis le début de la saison. Bon, je pense qu'ils peuvent réussir à progresser un peu là-dessus, mais on savait en même temps que les Titans seraient une équipe qui, cette année, a priori, s'en sortirait plus grâce à l'attaque que la défense. Mmh. Donc quand l'attaque patine, tu te rends compte que la défense ne suffit pas à stopper les Jets.
Je veux pas jouer au GM virtuel ou à Football Manager, mais je vois qu'il y avait Corey Davis en face, qui était un ancien de chez eux à 4 réceptions, 111 yards. Plutôt que d'envoyer des choix de draft sur un Julio Jones vieillissant, peut-être que tu gardais Davis et que tu investissais sur des défenseurs. Voilà,
peut-être pas le même salaire.
Je
me rappelle plus le contrat qu'ont offert les Jets à Corey Davis. Peut-être que ça joue. Après, c'est sûr que Julio Jones, il le paye pas au SMIC.
Ça doit être un peu moins cher que Julio Jones, ouais, non,
Je suis pas sûr, vu l'âge et la durée de contrat, je suis pas sûr qu'il soit moins payé, hein.
Je sais plus. J'ai pas ce potrac sous les yeux,
ouais.
Je vais pas dire de
non, vite. Mais ouais, bon. En tout cas, Zach Wilson, donc 21 sur 34, 297 yards, deux touchdowns, une seule interception. Il y a toujours des hauts et des bas, il y a des hauts très très fun. Est-ce que les supporters doivent être des Jets, ils doivent être comment? La calme, enthousiasmés, blasés,
Forcément, t'es un peu enthousiaste. Tu viens de gagner après trois matchs. Tu te disais que la saison pouvait être très très longue, peut-être pas sans victoire, parce qu'on sait à quel point, en fait, ça arrive pas souvent des équipes sans victoire, mais. Donc forcément un peu enthousiaste, et on a vu qu'effectivement ce pourquoi Zach Wilson a été drafté haut, notamment sa puissance de bras, on l'a vu là, la bombe qu'il envoie pour Corey Davis. Enfin, c'est pas du gain par Corey Davis, c'est vraiment la balle qui traverse 60 yards dans les airs. Donc le mec a le bras. Après ça reste encore très 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 limité en termes de lecture, en termes de précision, de décision. Bon,
c'est fou de champagne, c'est dans le jardin, tu vois.
on voit en tout cas, alors c'est sans doute lié également par rapport à ce qu'on disait au pass rush de l'équipe adverse, mais voilà, quand la ligne lui laisse déjà un peu plus de temps, il y a peut-être moins le paramètre, je panique, je lance un petit peu trop vite. Alors c'est sûr que c'est pas très rassurant d'emblée, mais bon, encore une fois, c'est que son quatrième match en NFL aussi. Oui. Faut voir un petit peu comment il s'acclimate. On lui a mis un corps de receveur à disposition. On voit qu'il y a quand même des joueurs qui ont été productifs sur ce match-là.
On entend bien avec Davis. Hein.
Oui, tout à fait. Bah, même, même Keelan Cole, il me semble, fait des bonnes stats. Hein, je ne les ai pas sous les yeux. Mais oui, non, en l'occurrence, voilà, on voit qu'il y a une défense qui est composée de bons éléments. Offensivement, voilà, il y a un backfield offensif qui reste extrêmement perfectible. Une ligne offensive qui, sur quelques matchs, va les condamner. Mais oui, en tout cas, offensivement et dans les airs, il y a moyen de se faire un petit peu plaisir et pourquoi pas de rester dans, tout au long d'un match dans la course, voire aller en chercher quelques-uns comme ça a été le cas. Et voilà, on remercie les Titans d'avoir raté leur field goal à la fin du match parce que ça m'aurait bien fait chier d'avoir un match nul à la dernière seconde.
Ah ouais, non merci.
Ça aurait été dur pour les Jets de se faire égaliser comme ça.
Ah ouais, non. Chargers 28, Raiders 14, première défaite de la saison pour les Raiders, donc plus d'équipes invaincues en dehors des Cardinals. Complètement annihilé par la défense des Chargers, 51 yards en première mi-temps pour Las Vegas. Ils se sont repris, ils en ont mis 200 en deuxième mi-temps, hein. Mais il y a un 4 sur 13 sur troisième tentative. Est-ce que on est pour les Chargers dans ce qu'on appelle aux États-Unis d'Amérique le statement game? Est-ce qu'ils ont envoyé un message avec cette défense? Parce que Brandon Staley, coach défensif, arrive et fait du taf en défense quand même, mine de rien.
Ouais, ça se sent et je trouve que ça se voit vachement sur le backfield défensif qui me semble vraiment costaud, très très agressif. Je vois sur certaines séquences les mêmes attitudes, la même agressivité sur la couverture que qu'il y avait au Rams l'an dernier, et notamment avec des Darius Williams, tout ça qui était assez agressif sur l'homme. Et là tu revois les mêmes choses avec Adderley, tout ça. C'est la patte est en train de se poser. Alors je sais pas si c'est un statement comme tu dis, parce que bon, on n'en est qu'à 4 matchs. Bon, on va peut-être pas non plus trop s'enthousiasmer, tu vois, du côté de Los Angeles. Faut rester mesuré, mais oui, la pression est là. Même Joey Bosa a l'air d'enfin enchaîner les bonnes performances. Lui qui avait peut-être un côté un peu irrégulier ces derniers temps. Écoute, défensivement, c'était quand même très très costaud. Et la bonne nouvelle, je trouve aussi, et qui était un de leurs défauts ces dernières saisons, c'était la défense contre la course. Là, ils ont très bien défendu la course. Donc bon, à voir si ça se confirme aussi.
Greg, rassuré par cette défense des Chargers? Ou impressionné même, je dirais rassuré.
Bah, je suis globalement bluffé depuis le début de la saison, parce que c'est vrai qu'en l'occurrence, ils ont des bons éléments. Raph en parlait, mais c'est vrai que les voir performer. Alors, j'ai pas spécialement attendu le match face à Las Vegas pour me dire que la défense m'impressionnait. Ils avaient quand même déjà réalisé des actions d'éclat la semaine dernière face aux Chiefs, hein, justement, pour faciliter leur victoire, ou en tout cas, encore une fois, être au même niveau que l'attaque sur ce match-là. Là, en effet, on voit qu'il y a des pertes de balles régulièrement qui sont provoquées par cette défense. Je ne sais plus ce que j'ai. Tu parlais, Alain, du run stop, mais une stat qui, moi, m'a quand même assez bluffé. Ils ont quand même joué sur les trois derniers matchs Prescott, Mahomes et Carr. Donc, trois attaques aériennes quand même assez bien huilées. Ils ont concédé, alors, sur les quatre premiers matchs de la saison, je crois que c'est moins de 800 yards à la passe. Donc, c'est une moyenne quasiment de 200 yards. Donc c'est quand même assez bluffant quand tu sais les joueurs qu'ils ont affrontés et les stats habituels qu'ils peuvent avoir dans le domaine aérien. Donc voilà, et puis je pense que Brandon Staley plaît énormément à Raphaël, parce qu'en l'occurrence
il est agressif.
Au moment de poser les coronets, à chaque fois il n'hésite pas, et pour l'instant en tout cas ça sourit, tant mieux pour les Chargers et pourvu que ça dure pour eux. Mais voilà, il y a cette agressivité et ce côté vraiment on a peur de rien qui en plus est récompensé, qui leur permet d'être co-leader de la division à l'heure où on se parle.
Et qui à mon avis est vraiment pas mal pour un groupe jeune, hein, notamment en défense et tout, d'avoir un coach et avec un quarterback en deuxième année. Je pense que au-delà de montrer qu'il a des coronets ou quoi que ce soit, je pense que ça crée aussi une dynamique malgré tout dans le vestiaire, pour les joueurs, de sentir que le coach fait confiance aux joueurs et à l'équipe pour tenter ces trucs là et que ah non, par sécurité, on va pas se reposer sur un punt. Je pense qu'il y a un moment, c'est aussi une sorte de cercle vertueux qui est en train de se créer. Donc, jusqu'où ça va les amener, je sais pas. Mais
ouais, faut juste pas tomber dans les excès. Mais ouais, c'est sûr que c'est une bonne chose.
Ça sera peut-être l'inexpérience qui leur fera tomber dans les excès à un moment un peu plus crucial dans la saison, c'est sûr.
On ne peut pas ne pas dire un mot sur Justin Herbert, parce que je sais qu'on nous le reprocherait sans fin là si on dit oui, mais on s'est concentré sur la défense parce que c'était quand même le point marquant. Parce que Justin Herbert a encore été épatant quand même avec 3 touchdowns. Il est quand même maintenant à la tête d'une équipe qui ressemble à un clair prétendant au playoff, malgré un Justin Herbert qui est jeune mais qui est impressionnant, quoi, qui a la maturité d'un vétéran actuellement. Raphaël, je sais que tu es plutôt client du.
Ouais, non, effectivement, il a un vrai leadership. Il fait encore quelques erreurs, mais comme beaucoup de quarterbacks et comme un quarterback de deuxième année, j'ai envie de dire. Moi, je le trouve vraiment en plus assez létal et précis sur, comme on dit, outside, enfin vraiment sur les passes vraiment en bord de terrain. Je trouve qu'il a une vraie capacité, une vraie précision sur ces passes-là.
Surtout que sa ligne est encore en amélioration, je trouve.
La ligne en amélioration, les investissements dessus à l'intersaison sont en train vraiment de porter leurs fruits, notamment le rookie, c'est Rashan Slater, hein, si je dis pas de bêtises sur le prénom, je suis en petit doute. Mais lui fait un début de saison de rookie assez incroyable. Donc non, Justin Herbert est en confiance, il est bien entouré, il a des armes, il a cette précision, et je trouve il est quand même globalement assez précis pour un quarterback de son âge, et c'est des fois ce qui fait défaut aux jeunes quarterbacks quand même. Hein, et finalement, il joue pas si risqué que ça, je trouve. Enfin, il a quelques petits déchets, mais je trouve qu'il est vraiment en contrôle. Donc ouais, c'est assez épatant pour un quarterback de deuxième année quand même.
Est-ce que les Raiders, parce qu'il faut qu'on parle un peu d'eux aussi quand même, ont trop forcé sur la course? Ils ont beaucoup tenté de faire jouer Josh Jacobs en début de match et puis ils se sont retrouvés dans un trou 21-0. Est-ce que John Gruden doit s'avouer au bout d'un moment que c'est une NFL du 21e siècle où on lance beaucoup de ballons, qu'il peut le faire, qu'il n'y a pas de problème dès le début? Greg, je te vois sourire.
Bah, d'habitude, tu lui reproches de trop courir et là, en l'occurrence, je pense que ouais, le plan de jeu était peut-être celui-là justement pour tester un petit peu le run stop. Après, oui, comme tu l'as dit, je pense que c'est vrai que le fait que les Chargers prennent chaud assez rapidement, forcément, après, ça fait apparaître que la stratégie n'était pas la bonne. Mais c'est sûr qu'il y a des moments qu'ils n'ont pas spécialement bonifié. Je pense à cette, justement, on parlait des prises de risque de Brandon Staley. Il me semble qu'il y a une quatrième qui est tentée à la passe par le punter et qui n'est pas concluante. Ça aurait pu permettre à Las Vegas de reprendre un petit peu de momentum, mais c'est pas ce qui s'est passé en l'occurrence. Donc, il y a très clairement, il y a eu un problème de rythme globalement en attaque. C'est symbolisé également par le domaine aérien. Le play call est sans doute pas parfait, mais voilà, bon, c'est pas forcément un mauvais calcul, je trouve, en soi, d'avoir peut-être voulu mettre le pied à l'étrier à Josh Jacobs en essayant de tester justement ce run stop des Chargers en face.
Raphaël, un peu comme les autres, comme les autres équipes qu'on a traitées tout à l'heure, c'est une équipe des Raiders qui a bien marché en début de saison, qui était à 3-0, qui perd ce match-là, mais il n'y a pas de dysfonctionnement honteux ou inquiétant, quoi.
Non, il n'y a pas de dysfonctionnement honteux ou inquiétant. Je pense qu'effectivement, c'est pas une équipe qui pouvait viser une saison que de victoire. Donc forcément, des défaites allaient arriver. Ils vont peut-être un peu rentrer dans le rang. Après, comme tu dis, il y a quand même une attaque qui a beaucoup. Il y a une attaque qui a des armes et qui va continuer à mettre des points cette saison. La défense a été un peu plus en difficulté parce que je pense que là, sur ce match-là, le pass rush est en difficulté et du coup, ça expose quand même un peu plus ce backfield défensif qui, en début de saison, à mon avis, a été bien protégé par des Crosby, des Ngakoue qui étaient très efficaces. Donc là, quand ça marche un peu moins à ce niveau-là, bah forcément, ils en payent un peu les frais. Mais bon, c'est une bonne équipe, hein. Ils vont se battre pour les playoffs, c'est sûr.
Ça reste deux gros prétendants pour les playoffs.
Ouais, clairement.
Et Chargers et Raiders, voilà, ce match-là.
Complètement. Petite pause et tous les autres matchs.
Actu, analyse, résultats. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On enchaîne avec tous les autres matchs de la semaine. Messieurs, on commence par Broncos-Ravens, 23-7 pour les Ravens. Il fallait s'y attendre parce que je les avais pronostiqués. On avait fait une émission spéciale sur eux. Je crois que j'avais dit que c'était une bonne équipe dans laquelle jouer dans le fauteuil. Enfin bon, il y avait tout contre eux. Donc Teddy Bridgewater s'est blessé, commotion cérébrale. Drew Lock est revenu. Bon, il n'a pas amené de points en deuxième mi-temps. Bridgewater était à 0-6 sur les passes de plus de 10 yards avant de sortir. Hein, donc c'est pas comme s'il mettait le feu aux airs non plus avant de se blesser. Question inévitable, est-ce que les Broncos ont calé sur leur premier test?
Bah, offensivement, en tout cas, oui. Après, c'est sûr que la blessure de, enfin la commotion de Bridgewater a pas forcément aidé en ce sens, mais bon, c'est pas là, c'est sûr que il y a quand même une petite, on a quand même ressenti une petite différence, même si la défense a essayé de freiner tant bien que mal, notamment le jeu au sol adverse. Hein, la preuve du côté des Ravens, on a souffert jusqu'au bout pour aller chercher ces 100 yards à la course, mais
et ils ont bien fait.
Ils ont bien. Oui, bon, moi après, personnellement, j'ai pas été choqué. Si on anticipe déjà sur la question, mais
Non, mais je dis ça parce que j'ai écrit un article avec un ton un peu caustique hier, et donc les gens, pas les gens d'ailleurs, certains gens ont cru que je jouais ma vie là-dessus et que j'avais la haine totale et que donc je me suis fait traiter de supporter des Broncos, alors ce qui est pas tout à fait exact, mais bref, ne vous inquiétez pas, hein, dans l'absolu je m'en fiche, hein, qu'il l'ait tenté ou pas. Moi je trouve que le record, bon, tu vois, c'est un record dont je ne savais pas qu'il existait, si tu veux, avant qu'il le brise. Bon voilà, donc de se faire chier à faire ça. Mais dans l'absolu, j'en veux pas non plus qu'il l'ait fait. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de m'insulter sur Facebook.
Ça aurait été sur un dernier jeu où tu joues le match. Bon, là, après, voilà. J'ai pas dans l'idée que ça a été fait de manière un petit peu grossière. Bon, voilà, on essaie de grappiller 2-3 yards un peu sous le manteau. Bon,
c'était l'occasion pour moi d'ajouter les Ravens à la liste des équipes que je hais, visiblement, selon la communauté internet. On en est à peu près à 38 équipes sur 32, là.
Je pense que ça aurait été un autre coach que John Harbaugh. Je pense qu'on aurait pu. Mais je trouve, en effet, que c'est pas un mauvais calcul, en effet, pour alimenter la dynamique de l'équipe.
Oui, si
voilà, jouer un petit peu sur la confiance. Voilà, on sait que je crois savoir que les joueurs NFL jouent un petit peu à l'ego, donc c'est pas forcément un mauvais calcul en soi. Après, juste pour finir, pas faire trop long. Voilà, offensivement, on a vu qu'il manquait de solutions, notamment au retour des vestiaires, notamment avec Drew Lock en l'occurrence. Donc, on ne sait pas si Shurmur est plus à l'aise avec Bridgewater qu'avec Lock, mais en tout cas, en deuxième mi-temps, c'était un peu moins clinquant. Et ce qui me perturbe un peu plus avec Denver, c'est que défensivement, surtout quand on voit l'investissement sur le backfield défensif. Ils ont quand même beaucoup souffert face à Lamar Jackson, qui a eu des allures de Patrick Mahomes sur ce match-là, quand même.
Et ouais, parce que Marquise Brown s'est réveillé aussi.
Oui, aussi. Ça, c'est sûr, il y a eu beaucoup moins de drops que la semaine dernière, notamment.
Quand même. Bon, alors, je ne demande pas trop l'avis de Raphaël sur Drew Lock, parce que je vais résumer les épisodes précédents pour nos auditeurs. Il n'est pas fan. Je dirais ça comme ça. Je dirais qu'il avait vécu quelques longues soirées d'hiver l'an dernier, parce qu'il s'est souvent retrouvé parachuté sur les matchs des Broncos. Il a donné son corps pour l'équipe à chaque fois, et on va peut-être pas rouvrir des plaies. Donc ça a été compliqué. Mais les Ravens vont mieux, eux, Raphaël.
Oui, les Ravens vont mieux après peut-être un début de saison qui a semblé un peu compliqué, notamment sur la ligne offensive. Même à ce niveau-là, ça va mieux. Après. Moi, je suis pas tellement surpris du résultat. Enfin, l'effectif des Ravens me paraît quand même beaucoup plus qualitatif que celui des Broncos, et notamment offensivement. Bon, je sais, on est tous pas toujours au sein de la rédaction d'accord sur Lamar Jackson. Moi, je trouve qu'il fait bien le taf et qu'il est de plus en plus convaincant à la passe depuis ce début de saison. Notamment, il a progressé sur les passes en profondeur, qui était son défaut dans le jeu aérien, ce qui ne l'est pas,
Il y a des roulements d'yeux de Grégory.
Je sais très bien qu'on est pas d'accord dessus, mais en tout cas,
il y a une progression. Je suis d'accord avec Raph.
Statistiquement, pour le moment, il est quasiment impeccable sur les passes en profondeur. Là, ça a fait beaucoup de mal à la défense de Denver sur ce match. Voilà, moi, je pense que et du coup, les Ravens, pour moi, redeviennent vraiment une équipe intéressante pour la suite parce que avec des progrès de Lamar Jackson. Toutes les équipes n'arriveront pas à les bloquer au sol, moyennant comment les Broncos l'ont fait, parce que les Broncos ont un des meilleurs run stops de la ligue. Donc en plus, si maintenant, quand le jeu au course est un peu bloqué, ils arrivent à enchaîner mieux à la passe, bah ça redevient une équipe quand même intéressante. Alors bien sûr, après, en face, c'est facile. Bridgewater se blesse, même s'il n'était pas bon avant de rentrer. Drew Lock derrière, bon bah voilà. Bien sûr, la défense n'a pas été testée en vrai sur ce match. La défense n'est pas testée, donc ils n'ont pas besoin de faire ils ont pas besoin de mettre 40 points dans les airs pour l'emporter, mais moi, attention aux Ravens, attention.
C'est assez fort de Jackson, surtout qu'il perd encore un left tackle sur ce match-là avec la blessure de Villanueva. Mm. Donc oui, c'est notable.
Moi, je trouve qu'ils sont dans une bonne position parce que autant il y avait une hype il y a deux ans, et même un peu l'année dernière, autant cette année, on les entend un peu moins. Il y a les Browns qui sont forts dans la division, il y a des choses comme ça. Et c'est peut-être la position idéale parce qu'ils peuvent continuer à progresser un peu dans l'ombre. Et en effet, Lamar Jackson progresse et c'est un très bon joueur que je ne déteste pas.
Et c'est encore plus important parce qu'on rappelle que c'est une année quand même relativement importante d'un point de vue contractuel pour l'intéresser.
C'est vrai aussi. Ouais. Allez, Eagles 30, les Chiefs 42. Aucun punt dans ce match, c'est vous dire si ça a défendu fort. 200 yards au sol, 278 dans les airs pour les Chiefs. Ils ont fait à peu près ce qu'ils voulaient. On a eu un match avec deux bonnes attaques, deux mauvaises défenses. Je raccourcis trop ou non, c'est bon.
Bon, c'est un bon résumé.
Bon. Dans ce cas, la différence, c'est quand même que Philadelphie cale et se contente trop souvent de field goal. Jalen Hurts fait quand même un bon match. Hein. Il est à 387 yards de touchdown, 47 yards au sol. Donc, l'un dans l'autre, il perd, mais il fait un bon match, Jalen Hurts. On n'en a pas beaucoup parlé, j'ai l'impression, mais il confirme quand même qu'ils ont fait un bon choix en se débarrassant de Carson Wentz parce que ce n'était pas non plus totalement gagné. Il n'y avait pas 1000% confiance en Hurts au début de l'année, non?
Non. Bah après, oui, c'était un pari à tenter puisque Jalen Hurts avait l'air beaucoup moins fragile et présentait en tout cas cette aptitude à être dans la mouvance actuelle, le profil de quarterback hyper mobile, capable d'aller chercher les premières tentatives. On voit qu'à la passe, en tout cas, dans le système Sirianni, ça a l'air de pas mal s'imbriquer. Bon. Il y a une prestation la semaine dernière à Dallas qui était un peu compliquée. Là, en l'occurrence, contre Kansas City, ça a été beaucoup mieux. Après, reste à juger du niveau défensif de Kansas City, parce que là, ça fait quand même deux semaines de suite. La semaine dernière, c'était les Chargers. Là, je veux pas dénigrer les Eagles. Il y a des bons joueurs en attaque, tout ce qu'on veut, mais face à une équipe qui a été beaucoup pénalisée. Je crois que c'est l'équipe la plus pénalisée de la ligue, les Eagles. Hein. Je crois que c'est 44 mouchoirs depuis le début de la saison en 4 matchs. Ça fait un peu beaucoup quand même. Mm-hmm. Ils arrivent quand même à mettre 30 points à Kansas City, à les mettre un peu sur le reculoir. Il y a des moments, en effet, où ça va tellement vite que c'est compliqué de pouvoir suivre le rythme. Mais sinon, Jalen Hurts, belle surprise, notamment dans le domaine aérien, encore une fois. Je ne sais pas si, comme Lamar Jackson, chaque semaine, on va nous bassiner avec le « on nous a dit qu'il ne faisait que courir ». Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il arrive…
On n'a pas trop eu le temps pour Hurts.
Mais en tout cas, c'est prometteur. Ouais.
Raphaël, pareil, prometteur.
Oui, c'est intéressant. En tout cas, il apporte quelque chose. Il apporte une autre dimension que ce que Vance pouvait apporter. Et par rapport à la construction de l'effectif, où la ligne offensive connaît souvent des blessures. Enfin, là, il y a encore deux joueurs titulaires qui sont pas là. Enfin, j'ai envie de dire que vu la situation, il valait mieux partir avec Kurt, c'est un quarterback mobile qu'avec Vance, en fait. Enfin, ça repartait au carnage à mon avis avec Vance. Donc.
Ça fait une défaite plutôt encourageante alors pour Philadelphie. Vikings 7, Browns 14. Les Browns ont encaissé un touchdown sur la première attaque des Vikings. Ensuite, rideau. Après les 9 sacks sur Justin Fields il y a une semaine, là, ils ont mis 7. Ils ont mis la pression sur Kirk Cousins. Il n'y a pas 7 sacks, j'allais vous dire une bêtise, mais il y a 7 défenseurs des Browns qui ont réussi au moins une pression sur le quarterback parce que sur 40 tentatives de passe, Cousins a été mis sous pression 22 fois. On est quand même en train de voir une belle défense là qui est en train de se former du côté de Cleveland. Ça fait. J'ai envie de dire un an et demi, deux ans peut-être presque, hein, qu'on en parle d'une montée en puissance. Là, on est en train vraiment de la confirmer, j'ai l'impression. Raphaël, je te vois hocher de la tête.
Oui, on la confirme. Bah, elle est portée, j'ai envie de dire, par Myles Garrett qui est encore sur un niveau de jeu assez impressionnant. Il tire tout le groupe vers lui. Il fait encore des sacs, cette pression qui donne pas toutes des sacs, mais voilà, il est omniprésent. Et puis, on voit des joueurs, des vétérans notamment, qui font du bien à cette défense. Au poste de linebacker, Malcolm Smith s'est montré sur ce match. Josh Johnson, au poste de safety, a fait quelques grosses actions. Ouais, ça monte en... Il y a leur rookie dont le nom, Jock, son
diminutif.
Voilà. De toute façon, je savais que je n'arriverais pas à le prononcer, donc autant se faciliter la vie. Qui fait aussi une belle saison, là un bon match, donc ouais, la défense progresse et ils ont un petit côté old school, hein, grosse défense, énorme jeu au sol, il y a un petit côté vibes années 80, mais écoute, ça fonctionne.
Les Steelers il y a 20 ans quoi.
Et alors la petite vibes, quarterback à moins de 50% de passes complétées comme dans les années 80, Greg? Il déjà, reste très irrégulier, c'est quoi encore la marge
déjà,
de progression
déjà
de...
ce que j'aime bien, c'est qu'au moins il se cache pas et il dit pas bon allez l'important je ferai mieux plus tard etc. Non,
il peut dire qu'il est nul, c'est mais tant mieux, mais
là il y a eu un petit peu de soucis en effet pour se connecter, notamment avec Odell Beckham qui faisait son match de reprise. On peut espérer que la saison suivant son cours ça va réussir à se mettre en place. Jarvis Landry est toujours pas là, hein,
il est sur liste
aussi. Donc, c'est vrai qu'on a déjà vu Baker Mayfield performant l'année dernière avec un corps de receveur qui était déjà relativement dépeuplé. Mais c'est vrai que c'est pas des statistiques, en tout cas, très, très rassurantes. Et la défense de Cleveland pourra pas toujours, être l'arbre qui cache les difficultés aériennes en attaque. Parce qu'encore une fois, au niveau du jeu au sol, et Raph en parlait, il y a toujours cette aptitude à avoir un ball control et à réussir à faire mouche à un moment donné dès qu'une brèche se présente à eux. Donc, c'est pas toujours sexy depuis le début de la saison en attaque Cleveland. Mais en tout cas, c'est précieux et ça bonifie un super travail de la défense et une pression constante mise notamment par le front seven des Browns.
J'attends quand même de voir un Mayfield un peu plus régulier.
J'ai l'impression, depuis sa deuxième année à NFL, j'ai l'impression qu'il est un peu plus dans un rôle de game manager que vraiment dans un côté hyper élite. C'est vraiment la première année où on s'est dit, tiens, c'est le Mayfield d'Oklahoma. Ça a l'air un peu plus compliqué.
In fine, moi, je le trouve presque régulier, en fait, régulier dans son rôle de game manager qui limite de plus en plus les erreurs.
Mais donc, il faut en attendre plus.
Je sais pas, c'est toujours compliqué de juger les marges de progression des quarterbacks, mais tu vois, moi en fait, je le trouve régulier, je trouve que l'an dernier, il est à peu près sur la même ligne, et effectivement, peut-être qu'on attend de le voir passer un cap, est-ce qu'il en est capable?
C'est ça, peut-être que ça dépend du système, mais encore une fois, on a vu qu'avec Kitchens, il y a une année où tout se passait bien, et l'année d'après, il s'écroule complètement. Là, il est dans un système où, voilà, on met l'accent un peu plus sur le jeu au sol, et où ça gomme en l'occurrence les défauts qui peuvent exister dans son jeu. Donc, c'est pas forcément une mauvaise chose pour Cleveland. Et puis, peut-être qu'il y a une année où il finira par prendre feu et à vraiment se révéler comme le gunslinger qu'il était à l'université.
Du côté des Vikings, on va se concentrer surtout sur la défense. L'attaque, on sait qu'elle peut faire mieux. Bon, ce sera pas une grande surprise. Là, ils peuvent au moins se satisfaire du retour de leur défense.
C'est
un des gros problèmes avant cette saison.
Oui, en tout cas, c'est une des équipes qui génère le plus de sacs depuis le début de la saison, alors que ce fera de ma part, je joue toujours sans Anthony Barr. Bon, alors certains me diront qu'Anthony Barr n'est pas fabuleux non plus depuis qu'il arrive en NFL, peut-être, en tout cas d'un point de vue pression. Mais on voit que par exemple, le retour d'un Everson Griffin fait pas mal de bien, notamment sur des troisièmes tentatives, sur des jeux relativement importants. Donc ils se font moins trouer, notamment sur l'intérieur de la ligne. Donc c'est toujours la même chose avec Minnesota, c'est une équipe très déroutante parce que ce serait bien que ce soit cohérent sur de nombreux aspects sur certains matchs, et malheureusement on a l'impression que quand d'autres se disent finalement on a mieux à faire, donc c'est peut-être un peu frustrant quand on est fan des Vikes.
Ouais, c'est ça, jamais rien ne marche en même temps du côté de Minnesota, et là par exemple c'est pareil dans les bonnes nouvelles, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le backfield de Minnesota, le backfield défensif aussi costaud, enfin maintenir aussi bien le jeu aérien avec Thielen, Jefferson, Cousin, enfin c'est quand même une grosse prestation. Il y a un Patrick Peterson qui fait un excellent match, mais voilà, eux ils sont là cette fois-là et c'est l'attaque qui disparaît. Et là je commence à me dire que peut-être que Mike Zimmer a fait son temps, c'est un bon coach, mais il y a un moment, être incapable de toujours avoir l'équipe au même moment, c'est son rôle de coach, je crois aussi quand même.
Oui, clairement, c'est manager. Hein. Bills 40, Texans 0, 3 balles de jeu pour les Bills. Absolument zéro suspense dans ce match. Houston a été massacré. David Mills a signé un des pires matchs de l'histoire récente avec un 11 sur 20, 87 yards, 4 interceptions. Je rassure Grégory, Nathan
Peterman. C'est pas la peine de le dire, on n'entend pas ce que tu dis.
Match pire statistiquement. 450 yards à 109 pour Buffalo. Est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de ce match pour vous en termes d'enseignement? On va pas y passer 10 ans.
Non,
juste dire que la défense de Buffalo confirme. Je crois qu'il y avait deux équipes dans l'histoire qui ont fait deux matchs avec zéro point concédé. C'était les Feux Redskins en 91 et les Ravens en 2000 qui ont gagné le Super Bowl derrière. On souhaite le même sort à Buffalo en l'occurrence. Ils se sont bien remis de leur défaite d'entrée contre les Steelers.
Dolphins 17, Colts 27. La ligne offensive en galère, la défense aussi. Les équipes spéciales ont perdu un ballon. Finalement, le quarterback, c'était pas le plus gros problème de Miami. genre vraiment pas quoi.
Bah en attaque c'est pas le seul problème, mais bon là c'est un peu ce que je disais il y a pas si longtemps que ça avec Miami, c'est que ouais, enfin quand ta défense qui est toujours capable hein, de générer des pertes de balles et dans le match ça va, mais alors dès qu'elle commence à baisser un petit peu de pied ou en tout cas à ne plus pouvoir stopper l'attaque adverse, bah ça commence à se gâter. Les Colts ils sont pas monstrueux sur ce match-là, mais il y a un très bon ball control et au moment où faut mettre la tête des Dolphins sous l'eau, alors que paradoxalement Dolphins ou tout ça.
Bah oui, bref. C'est ça, ils devraient être plus récents. Mais...
bon, dès qu'il faut leur mettre un petit coup de massue, bah voilà, ils ont été capables de le faire. Les Colts, c'est un petit peu la problématique du côté de Miami, c'est que là le chantier continue de me paraître relativement important. Il y a un jeu au sol qui est encore anémique. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses qui posent problème offensivement parlant. Hein.
Ça régresse, Jean-Raphaël.
Oui, je ne sais pas si c'est une régression qui va se confirmer ou s'ils vont réussir à se restabiliser un peu, mais une des grosses déceptions pour moi, c'est quand même leur couverture aérienne. Ils ont une paire Xavier Howard, Byron Jones, qui était censée être une des toutes meilleures de la ligue et qui, depuis le début de saison, ne joue pas du tout à ce niveau-là. Et c'était quand même une de leurs forces l'an dernier, hein, cette couverture aérienne qui avait permis à cette équipe de tutoyer la course aux playoffs. Donc là, ouais, si même la défense se met à rejoindre les difficultés de l'attaque, la saison va être plus longue que prévu, je pense, du côté de Miami.
Après, il y a une pression qui est peut-être un peu moins importante que l'an dernier. J'ai pas les stats sous les yeux, mais en termes de rusher, ça m'a l'air un peu moins foufou. Hein.
Les Colts ont le mérite d'avoir minimisé les erreurs malgré une ligne offensive sans Quentin Nelson. Leur défense a un peu haussé le ton. Est-ce qu'il y a un début de quelque chose ou est-ce qu'on attend que ce soit plus costaud en face là quand même pour tirer des leçons?
C'est dans mes tops de tout à l'heure, donc je vais pas très bien. Mais ouais.
Très bien. Alors, on va enchaîner avec le match suivant. Bengals 24, Jaguars 21, victoire à la dernière seconde des Bengals. 3 victoires et une défaite. Est-ce que Greg change d'avis sur Zach Taylor? Tiens.
Ah lol, pardon.
Est-ce qu'il est en course pour le coach de l'année, Greg?
Ouais, c'est ça. Ah, j'étais pas prêt. Entre le Dallas vainqueur du Super Bowl et ça.
Je suis incisif aujourd'hui.
Tu m'as gratiné.
Là, on est de nuit. Moi, je suis.
Non. Alors, attends. Non, blague à part. Non, très franchement, c'est toujours ce que je dis et ça va pas changer en fonction des appréciations que je donne à certains coachs à un instant T. Il y a des matchs qu'il faut gagner en NFL et Cincinnati a au moins le mérite de le faire. Là en l'occurrence c'était un match extrêmement piégeux en prime time contre une équipe des Jaguars qui a quand même assez bien démarré. Il y a un truc principalement qui m'inquiète chez ces Bengals à l'heure actuelle, c'est leur début de match. Ils ont beaucoup de mal à démarrer au tableau d'affichage leur rencontre et face à des équipes plus opportunistes en première mi-temps, ça pourrait se compliquer et en effet leur donner une deuxième partie de saison un petit peu plus délicate. Après, on voit qu'offensivement, Joe Burrow fait le boulot. Il a été assez bien protégé sur ce match-là, notamment. Il y a une défense, bon voilà, qui sans être hyper flashy, fait le boulot dans le sillage, notamment d'un Logan Wilson qui est excellent depuis le début de la saison. Donc il y a beaucoup de signes encourageants. Il faut voir ce que ça va donner la blessure de Joe Mixon, mais en tout cas, oui, c'est de bon augure. Après. J'attends de voir sur la durée ce que peut donner les Bengals, mais c'est, en tout cas, ils gagnent les matchs qu'il faut gagner en ce début de saison.
Raphaël,
et ça va être à leur crédit.
Raphaël, un peu plus enthousiaste.
Non.
Non, pas tellement.
Non, mais Grégory a raison. Pour les Bengals, gagner ces matchs-là, c'est important parce que l'an dernier, ils le faisaient pas. Et voilà, c'est quand même un bon signe. C'est une équipe qui progresse. Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien passées pour les Bengals sur ce match qui montrent aussi la faiblesse de l'adversaire. Et je pense notamment à la ligne offensive de Cincinnati qui est normalement un gros point faible, qui là a passé une soirée tranquille parce qu'en face, il n'y a pas de pass rush et qu'à Jacksonville, les soucis s'accumulent sur plusieurs escouades et en dehors des escouades sur le banc, semble-t-il.
Sur l'escouade supplémentaire aussi, ouais.
Semble-t-il, donc ouais, bon.
Mais c'est-à-dire que bon, c'est triste parce qu'ils calent sur une quatrième tentative devant la end zone alors qu'ils peuvent mener 21-0 quand même, donc ce qui aurait plus là
vrai.
Vraiment mettre la tête du dauphin sous l'eau hein, comme disait tout à l'heure Grégory. Ils perdent en fin de match, c'est le premier match sans ballon perdu pour Trevor Lawrence quand même, donc ils n'arrêtent pas de dire on est tout prêt, ils ont l'air tout prêt quand même.
Oui, ils s'améliorent. Je persiste et signe quand ils utilisent de manière un peu plus régulière James Robinson, on voit en tout cas que cette attaque peut être un peu plus fringante. En effet, bon, Trevor Lawrence, on attend un peu plus que le côté j'ai minimisé les erreurs aujourd'hui, mais en tout cas, on voit que c'est le cas.
Il court pas si mal, hein, j'étais surpris.
Il avait une bonne mobilité, hein, il y a pas de, mais ils sont pas si loin que ça. Mais ouais, il manque encore ce cette petite voilà ce ce côté voilà playmaker voilà cette oui c'est
oui bah alors il faut qu'on résume donc je rappelle parce que la quatrième tentative est pas passée donc ensuite Urban Meyer a tenté la cinquième tentative au bar qui visiblement a pris la forme de cinq margaritas alors c'est son bar hein, moi j'ai appris oui. Alors attendez je reprends depuis le début oui. Fin du match les joueurs rentrent à Jacksonville Urban Meyer reste dans l'Ohio parce qu'il a un bar dans l'Ohio vu qu'il était le coach d'Ohio State et donc visiblement il a investi dans un bar mm-hmm. Et donc, il dit « Je reste pour voir mes petits-enfants ». En fait, ses petits-enfants, visiblement, étaient au bar et c'était une grande blonde qui s'est frottée contre lui. Alors moi, ma théorie, c'est qu'il pensait que c'était Trevor Lawrence parce qu'il y a une ressemblance capillaire sur la vidéo et que sur le coup, sur le malentendu, il se dit « Tiens, Trevor est resté, on fait la fête ». Donc voilà, les récits…
Il travaillait les pré-snap.
Voilà, petit travail. Donc, les récits Twitter, etc., c'était qu'en effet, il y avait une nana qui avait dansé un peu proche de lui, qui a des mains qui se sont baladées, etc. Bon, ça, c'est sa vie, donc on n'en parle pas sur le site jusqu'à ce moment-là. Il fait ce qu'il veut. Alors, c'était pas sa femme, mais ça le regarde aussi. Hein. Mais en effet, les Jaguars n'ont pas trop aimé. Il y a eu des réunions au sommet. Ils ont probablement essayé de voir s'ils pouvaient le virer pour faute grave. Leur avocat leur a dit que c'était un peu juste. Du coup, Shatkan a fait un peu un communiqué disant qu'il fallait qu'il regagne le respect de tout le monde, y compris des joueurs, ce qui est quand même pas tout à fait bon
après, quatre matchs, hein, après quatre matchs ouais. En non, première
mais,
saison
alors, là, je vais pas faire trop long parce qu'on l'est déjà suffisamment dans cette émission mais on est d'accord encore une fois concrètement d'un point de vue conjugal Urban Meyer s'il a envie de s'il est libertin ou je ne sais quoi il fait absolument ce qu'il veut si sa femme est d'accord ça là-dessus je contesterai pas c'est pas ma vie non, mais, privée
attends il fait ce qu'il veut même si sa femme est pas d'accord en soi on s'en fout quoi
non mais bref, je vais pas m'étendre.
Non, parce que si, on enlève, si on enlève tous les infidèles des terrains NFL,
il n'en reste pas moins. Je sais que ça a beaucoup été comparé avec certains joueurs, notamment le fameux exemple Tyreek Hill, etc. Déjà, j'ai pas dans l'idée que l'image d'un coach et l'image d'un joueur, malheureusement, je le déplore le premier, soit la même aujourd'hui au sein de l'organisation. Urban Meyer, il traîne quand même déjà pas mal de casseroles. Hein. Faut aussi le rappeler. On rappelle qu'en début d'année, il a voulu engager un préparateur physique qui avait été viré de son programme universitaire parce que il dénigrait les joueurs de manière, enfin, dénigrait les joueurs noirs pour faire simple, hein, concrètement. Ça avait fait un gros tollé et du coup, le préparateur physique avait été viré dans la foulée. Et je rappelle également, puisqu'on parle de mœurs légères et de problèmes conjugaux, qu'Urban Meyer avait aussi fermé les yeux sur les violences domestiques d'un ancien assistant coach à Ohio State. Donc, je peux comprendre que du côté des Jaguars, on se dise bon, on n'a peut-être pas besoin de ça aujourd'hui.
Enfin, c'est le coach d'Aaron Hernandez à Florida et il a fermé les yeux sur des trucs aussi là-bas.
C'est,
hein,
mais c'est le coach des Gators. Dans ce cas-là, en fait, oui, je suis d'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi réagir à une main baladeuse? Ne le prends pas directement, en fait. Si tu as des remords sur ses dossiers, non, mais... ne va pas le chercher. En fait, si tu estimes que son passif est déjà trop lourd.
Ah mais en fait, moi je suis d'accord avec toi. Sauf que tu peux estimer que sur l'histoire d'Ohio State, bon, tu peux te dire bon c'est sa parole contre celle de machin. Mmh. Sauf qu'entre temps il y a eu deux cas un peu particuliers sujets un peu lourds. Ouais, voilà donc bon on sait que les Américains je pense sont aussi un peu plus puritains, le côté oh là là mon Dieu qu'est-ce qu'il a fait voilà c'est d'un point de vue image
pendant que sa femme donnait le bain aux enfants
voilà il est peut-être pas obligé de se faire gauler au bar etc enfin je pense qu'il y a beaucoup d'autres moyens éventuellement d'entretenir une relation extra-conjugale si tout le monde est d'accord voilà bref hein, mais bon encore une fois voilà c'est plus d'un point de vue image que je comprends que les Jaguars au bout d'un moment se disent bon t'es gentil coco mais c'est déjà pas terrible sur le terrain on n'a pas besoin que le coach soit une distraction en plus
après c'est ce que tu dis c'est le côté un peu funky des fois des États-Unis et des sports US, c'est-à-dire que le mec il a couvert des agressions, des trucs comme ça, et puis il va tomber pour une main au cul, quoi. C'est quand même assez particulier. Packers 27, Steelers 17. Un peu en difficulté en début de match, les Packers ont mis 27 points sur le second et le troisième carton pour plier l'affaire. Leur jeu au sol marche bien. Et puis surtout en face, il y avait une attaque de Pittsburgh toujours en grande souffrance. Alors on va pas développer très très longuement parce qu'on va, ce sera le thème du jour dans l'émission de jeudi, donc je peux prendre de l'avance. Mais comme vous serez pas dans cette émission, vous pouvez quand même dire un mot aussi là-dessus. C'est quand même très très grande souffrance pour Pittsburgh maintenant en attaque. Il y a plus l'air d'y avoir grand chose à sauver, quoi. Que ce soit de la ligne ou quarterback, quoi.
La ligne était un peu meilleure. Après, encore une fois, c'est pareil. Il y a quelques jours de ça, on a eu écho du fait que Roethlisberger n'était pas en super, super état physique.
Oui.
Malheureusement, ça ne remonte pas à cette année. Hein. Ça fait pas mal de temps qu'il traîne des blessures à répétition hein, depuis son début de carrière quasiment. Mais ouais, au point où on se posait même la question de savoir si c'était pas plus judicieux de le reposer contre Cincinnati. Là, on voit que même sur des moments où il avait un petit peu de temps, Roethlisberger jouait peut-être un petit peu contre le rythme. En tout cas, voilà, il n'y avait pas un bon timing avec ses receveurs et c'est quand même un peu problématique quand on sait qu'il a quand même un corps de receveurs malgré tout capable éventuellement de lui proposer des solutions.
De toute façon, moi, je veux
pas... Schuster, notamment, qui fait 2 sur 8, c'est un peu bof.
De toute façon, moi, je veux pas teaser ou spoiler ou quoi, hein, mais Victor Roulier a prévu de le démonter jeudi.
Bon, bah, on va lui laisser le plaisir, alors.
Non, mais...
Je dis ça...
Voilà, je sais pas si les... je sais pas, pour répondre rapidement, si les Steelers auraient une meilleure possibilité au poste de quarterback, mais c'est sûr que forcément, ça va devenir problématique, encore plus si la ligne n'est pas dans un bon jour. Voilà. Après, sur ce match-là, très clairement, les Steelers peuvent avoir des regrets, notamment par rapport à ce coup de pied bloqué, annulé. Très franchement, ça leur casse un sérieux momentum, quoi.
Bon. Promis, on parlera des Steelers plus longuement, mais on est déjà un peu long aujourd'hui, donc on va avancer un petit peu. Raphaël, quand même, un mot sur les Packers. Ils ont bien couru. C'est un pas de plus pour eux, quand même, dans cette mise en place offensive face à une bonne défense en plus.
Oui. Je saurais pas dire beaucoup plus que ça. C'est le Green Bay auquel on s'attendait un peu avant le début de saison, assez sérieux offensivement. Défensivement, il y a des trucs intéressants, même si je pense que c'est encore bien perfectible, hein, défensivement. C'est clairement pas une machine. Encore du côté de Green Bay. Bon, écoute, on va monter en régime, comme tu dis, monter en régime.
Patriots 17, Buccaneers 19, le retour de Tom Brady à New England. Victoire difficile, ça a calé en zone rouge, ils ont marqué qu'un seul touchdown. Ceci étant dit, on va pas forcément s'inquiéter pour l'attaque, on va peut-être plutôt parler de la couverture défensive qui commence à être décimée, le quadriceps pour Carlton Davis, la commotion cérébrale pour Antoine Winfield Jr., les blessés déjà avant ce match, hein, Sean Murphy Bunting, Richard Sherman en difficulté. On va falloir bricoler quand même là un peu toute l'année maintenant. J'ai l'impression que ça va être une constante, Raphaël, pour Tampa.
Ouais, ils connaissent, ils sont en train de se subir ce qu'ils n'ont pas connu l'an dernier, c'est-à-dire quand t'as une escouade qui commence à être décimée, il faut aller chercher des ressources ailleurs. Là, sur ce match, ils ont de la chance qu'en face l'attaque est vraiment en rodage, c'est un jeune quarterback, on a un Josh McDaniels un peu étrange par moment, un peu avec des choix particuliers. Donc, ils ont de la chance sur ce match-là, ça passe, mais effectivement, ça commence à poser question pour la suite de la saison quand ils vont tomber sur des attaques aériennes bien plus fortes. Comment ils vont réussir à s'en sortir, surtout que, on l'a vu là sur ce match, le pass rush, ça a été, mais ça n'a pas toujours été le cas depuis le début de la saison. Donc oui, Tampa Bay, de manière plus globale, je trouve, pour le moment, pose question défensivement, même si là, ils prennent que 16 points et donc ça peut paraître une grande prestation, mais défensivement, ils posent question.
Et Greg, tu as l'air d'avoir adoré quand ça parlait de Sean McDaniels. De Josh McDaniels, pourquoi je...
Ouais, j'ai gardé pour les tops et les flops, mais c'est largement perfectible. Mais oui, tu l'as dit, après, il y a des problématiques de blessures, malheureusement, et pas forcément Tampa. Et c'est sûr que ça va être un petit peu contraignant. Là, sur ce match-là, ouais, il y a un petit brin de réussite pour leur permettre de s'imposer. On pensait pas qu'ils galéreraient autant, enfin, moi, en tout cas, à titre personnel, du côté de Foxborough. Mais voilà, va falloir que l'attaque soit réponde présent tout au long de cette saison.
Petite test juste pour être sûr que c'est bien Raphaël qui est avec nous. 4e et 3 sur les 37 yards adverses, il pleut, tu la joues ou tu tentes le field goal de 50 yards?
Bah écoute, j'en parlerai plus tard.
Très bien. Saints 21, Giants 27, victoire en prolongation des Giants, première victoire de la saison, 485 yards en attaque, un bon Daniel Jones, un bon Kenny Golladay. Est-ce que Daniel Jones est en train de devenir un bon quarterback, messieurs? Une seule interception, un seul fumble perdu en 4 matchs. Il a perdu que 2 ballons en 4 matchs.
C'est bien, c'est une progression, clairement, c'était ce qui lui était demandé, d'arrêter de perdre des balles. Après, pour le moment, les matchs de haut niveau de Jones et de l'attaque des Giants sont tellement rares depuis une saison et demie qu'il va falloir le confirmer. Enfin, on peut pas juste se satisfaire d'un match contre les Saints un peu réussi. Va falloir, là, c'est vraiment, pour moi, c'est de la confirmation à attendre, quoi. Enfin,
ils étaient menés de 11 points à 7 minutes de la fin avant d'accrocher la prolongation. Est-ce que, Greg, c'est pas genre justement le genre de moment qui débloque tout, tu vois, sa carrière est lancée? J'essaie d'être dans l'enthousiasme aujourd'hui.
Ouais,
je vous sens pas réceptif
aujourd'hui. Ouais, ouais. Franchement, là, je sais pas ce qui se passe. Là. Je sens pas bien.
J'ai pris un guéronzan.
Non, très franchement, en tout cas, c'est remarquable de le faire dans la situation dans laquelle sont les Giants. Parce qu'en effet, en plein doute, avec une fiche de 0-3, à l'extérieur, en étant mené, donc, en l'occurrence, face aux Saints, oui, on n'aurait pas parié là-dessus très, très clairement. Après, oui, on a su du côté des Giants. Ça va, ça peut apporter, pour répondre à ta question, ça peut apporter une certaine impulsion, en effet, et pleinement refocaliser les Giants qui ont été appliqués défensivement. Offensivement, il y a beaucoup de big plays qui aident un petit peu à cette performance, mais c'est pas pour ça que les touchdowns et les points marqués sont galvaudés. Mais bon, pour revenir rapidement, peut-être pour anticiper également sur la prestation des Saints, je suis quand même assez troublé par la prestation de leur pass rush. Notamment de leur ligne défensive, on voit que il n'y a pas trop de pression, justement. Cameron Jordan, notamment, est un peu symbolique de ça. Je crois qu'il a zéro sac depuis le début de la saison. Ça n'a pas dû lui arriver souvent après quatre matchs en début de campagne. Et voilà, après, on a des defensive back où ça peut faire interception comme ça peut faire big play derrière. Donc, c'est un peu compliqué pour l'instant. C'est une équipe des Saints qui continue de tâtonner et pour laquelle, d'un match sur l'autre, on ne voit jamais le même visage. Donc, c'est un peu comme les Vikings, c'est toujours aussi perturbant. Et voilà, les Giants ont su exploiter ça pour enfin réussir à lancer leur saison.
Mais c'est vrai que les Saints, c'est un peu un match sur deux. En effet, ils avaient 11 points d'avance. Ils couraient bien en plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, Raphaël?
Je sais pas trop ce qui s'est passé. Comme tu dis, ils couraient bien. C'est peut-être, ouais, la défense a un peu craqué sur des big plays. Effectivement, il y a un Marshon Lattimore qui, jusque-là, par exemple, faisait une excellente saison. Et là, se fait bien manger sur un gros touchdown. Enfin, ouais, ils ont craqué sur deux trois actions un peu bêtes. Ça arrive, hein.
Falcons 30, Washington 34, victoire au finish pour Washington dans un match offensif, des équipes qui se sont rendues coup pour coup. Greg, c'est la vie que t'as choisie tant qu'Atlanta n'a pas de défense.
Ouais, parlons de craquer en fin de match, voilà. Sans transition.
Voilà.
Apparemment, les équipes d'NFC Sud ont un peu souffert en fin de match contre les équipes d'NFC Est. Mais écoute, que te dire. C'est pareil.
Il y a l'incroyable renaissance de Cordarrelle Patterson. 3 touchdowns.
Alors ça, j'avoue, franchement, là, ouais, très bonne acquisition. Franchement, je pensais pas qu'il serait aussi performant.
Greg qui a ce côté. Je l'ai pas payé cher, je l'ai trouvé dans un bac comme ça. Je m'attendais pas à ce que ça me serve autant. C'est vraiment le truc. Tu sais, des fois, t'as acheté un
truc. Il y a les punts, mais si, les retours de punts, il est utile tout le temps. Enfin.
Mais tu sais, il y a vraiment cette vibe chez Greg. C'est le truc que j'ai acheté à 10 balles une fois, comme ça, en n'étant pas convaincu. En fait, je m'en sers tous les jours.
Bref, tout ça pour dire que non, en tout cas, voilà, on sait que notamment l'efficacité en zone rouge, c'est un gros problème du côté d'Atlanta, et au moins il a cet avantage de proposer une solution un peu plus de vivacité, on dira, justement, pour être précieux dans cet exercice-là. Matt Ryan fait un bon match parce que en face il y a pas de pass rush du côté de Washington, et ça devient peut-être un petit peu préoccupant pour l'équipe de Ron Rivera, hein, quand on arrive à faire passer la O-line d'Atlanta pour celle de Dallas. C'est qu'à un moment donné, ça devient peut-être un peu problématique. Mais la route est longue pour Atlanta, mais on le savait. Pour Washington, elle l'est peut-être aussi avec deux victoires, mais peut-être deux victoires en trompe-l'œil, parce que c'est deux victoires vraiment acquises à la sueur du front.
Hein. Ouais, ils prennent l'eau en défense toujours, c'est assez inquiétant. En attaque, un mot quand même sur Taylor Heinicke. Heinicke, 23 sur 33, 290 yards, 3 touchdowns. Il va quand même le chercher en fin de match.
Oui, il a le mérite d'aller le chercher. Il est un peu sur cette dynamique du match de playoff qu'il avait joué, où il avait essayé de surprendre un peu, et au final, ils n'avaient pas été ridicules contre les Buccaneers. Il surfe là-dessus. Finalement, je trouve que pour Washington, c'est presque plus intéressant de l'avoir toute la saison que Fitzpatrick, de le faire jouer. Je trouve qu'à quelque part,
c'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te demander, en fait.
Il pourrait un peu devenir leur cousine, j'ai envie de dire. Enfin, même s'ils n'ont pas forcément les mêmes qualités, mais de ce quarterback que t'attendais pas vraiment et qui peut devenir finalement une sorte de franchise quarterback. À voir s'il le confirmera ou pas, mais bon, je trouve ça intéressant. Et puis il y a une jolie arme avec Terry McLaurin qui est fantastique. Je lui souhaite de pas tout à fait faire la, enfin si, je lui souhaite la même carrière que Larry Fitzgerald, mais je lui souhaite à un moment d'avoir peut-être des lanceurs un peu plus
On est un peu sur la même ambiance. Je l'ai mis dans les sons de la semaine aussi, en effet. Pour l'instant, il est seul. Bears 24, Lions 14. Pour terminer, ça s'est mieux passé pour Justin Fields. Il a 4 sur 6 sur les passes de plus de 20 yards. Il y a eu du mouvement. Il y a eu des passes simples pour se remettre en confiance. Est-ce que Matt Nagy a trouvé la recette avant de remettre Andy Dalton? Je vois que Raphaël rigole.
Non, mais parce que c'est le cercle Matt Nagy, quoi. C'est je suis mauvais, je suis en danger, je veux une équipe pour me donner du temps, et puis hop, on va retomber dans les mêmes travers. Voilà, je crois pas vraiment que ça change. Heureusement, ils ont bien préparé le match avec les qualités de Justin Field. Il manquait plus que ça qu'il leur fasse jouer un match avec le playbook d'Andy Dalton. Ça aurait été un peu débile. Enfin, je sais pas, c'était quand même le minimum.
J'aime bien la notion de cercle de Najee. Voilà, on l'a gardé.
Moi, au-delà de la question de quel quarterback ils vont mettre, moi, le fameux cercle, du coup, pour reprendre l'expression, moi, c'est de savoir quand est-ce qu'il va repéter les plombs et qu'il va nous dire c'est bon, c'est moi qui reprends les appels de jeu. Manifestement, il a laissé sous-entendre que c'était Bill Lazor, son coordinateur, qui les avait appelés sur ce match-là. Bon, rien de fabuleux non plus, hein, à part le big play de Darnell Mooney.
Oui,
il n'y a rien qui m'a ébloui non plus dans ce qu'ont proposé les Bears offensivement. C'est encore la défense comme contre Cincinnati. Qui a porté à bout de bras l'équipe, et qui, je pense, va les porter pendant longtemps cette saison, hein, parce qu'en l'occurrence, Justin Fields, voilà, il y a encore un petit apprentissage à faire malgré tout. Très franchement, je pense qu'il faut quand même garder Justin Fields, mais ouais, de toute façon, j'ai quand même un peu peur que Matt Nagy, à un moment donné, se dise, bon, allez, les gars, c'est quand même mon équipe, c'est quand même mon jouet, laissez-moi un petit peu m'échapper.
Il a dit que c'était Andy Dalton le titulaire, hein, s'il était en bonne santé.
Ouais. Bon, là, voilà, c'est ouais, en termes de com. Bon, écoute. Bon.
Ils ont été aidés quand même par des Lions à 1 sur 5 dans la zone rouge, hein, qui n'avaient pas franchement envie de marquer.
Envie de gagner, ouais.
Voilà. Jared Goff en difficulté face à la pression. Si en plus il manque de réalisme, les Lions, ils vont jamais y arriver parce que là, c'était les Bears en face. Il y avait l'occasion d'en prendre un.
Ouais, pas aidé par la ligne, très clairement. Parce que Penei Sewell, il a pris l'eau sur ce match-là. Il y a son centre qui fait des snaps un peu bizarres.
Bon. Très bien. On passe au top et au flop. Plein de matos alors dans les tops et les flops, si j'ai bien compris. Raphaël, vas-y.
Eh ben le top, bon, on en a parlé, donc je vais faire très vite, mais les Chargers, ce qui est en train d'amener Brandon Staley à cette équipe, la hype, je ne sais pas si c'est le terme quand même, autour de Justin Herbert. Bref, je trouve qu'il y a du beau matos un peu partout, c'est en train de prendre forme, et donc c'est quand même plaisant à voir, et ils sont plaisants à voir.
Clairement. Greg.
Top les Colts, tout simplement parce que même si le début de saison n'est pas parfait, faut quand même rappeler un petit peu leur situation. Je pense qu'il n'y a pas un poste où ils n'ont pas des problèmes de blessures. Ils jouent quand même avec un Carson Wentz qui a double entorse à la cheville. Il me semble avoir
vu les deux, ouais, les deux
chevilles. Ouais, c'est ça. Normal, quoi. Tout se passe bien. Jonathan Taylor est un peu diminué.
Dans le jargon, on l'appelle, dans le vestiaire, on l'appelle la momie, hein, parce qu'il parle au niveau des
stars. Voilà, Eric Fisher, Quentin Nelson, ça traîne la patte aussi. En défense, ils n'ont pas Carey Willis. Enfin, je pourrais aller très très loin comme ça, mais ouais, réussir quand même malgré tout, avoir les ressources, la rigueur, parce que ça reste une équipe extrêmement disciplinée, pour réussir à se faire un petit peu violence, aller chercher la victoire donc face à cette équipe de Miami. Je trouve que c'était quand même assez notable dans ce match de la peur. Voilà, c'est sûr que tout n'est pas parfait à Indianapolis comme ça pouvait être le cas. Enfin, en tout cas, sur certains postes ces dernières années. Mais en tout cas, on arrive à faire front et à se relever. Donc, ça me paraissait important de le mettre en avant.
Alors moi, mon top, c'est pas une action, c'est pas une équipe, c'est un terme que j'ai revu et utilisé cette semaine et qui me réjouit profondément à chaque fois que je le vois. Un terme qui a été utilisé pour Mitchell Trubisky, qui est « cigare de la victoire humain ». J'aime beaucoup entendre cette expression. C'est-à-dire que Mitchell Trubisky a été utilisé comme un cigare de la victoire. C'est-à-dire qu'il peut rentrer, quand il rentre sur le terrain, c'est le cigare de la victoire des Buffalo Bills. C'est que le match.
Enfin, tu as parlé de Trubisky.
Ouais, et j'adore ce terme. Human Victory Cigar. Ça me, j'aime beaucoup à chaque fois. Ça me réjouit. Ça me fait plaisir comme ça dans la vie. Le flop, Grégory.
Alors, concernant le Patriots Buccaneers, parce que je pense que Raph va en parler, hein, de ce que j'ai pu comprendre également. Alors, les Bucs ont des problèmes contre la passe, c'est un fait. Ils sont exposables contre la passe et ils ont un excellent run stop. Mais comment on peut avoir ce type de play call offensif de la part des Pats? Moins un yard au sol, 8 courses tentées. Ben, moi, je comprends pas. Quand on parle des Patriots quand même, c'est pas une équipe. Enfin, c'est un mauvais exemple en l'occurrence, mais on parle pas d'Arizona avec un Kyler Murray qui peut lancer 60 fois dans un match. Je veux dire, c'est une équipe ces dernières années qui joue quand même avec des comités fournis, avec un jeu au sol quand même qu'on essaye d'établir. Je sais que Ramondre Stevenson est blessé, je sais que J.J. Taylor, dans des conditions climatiques un peu délicates, commet un fumble assez rapidement. Je sais qu'on essaye de tester Mac Jones pour voir concrètement ce qu'on peut en obtenir. Et globalement, Mac Jones fait pas un mauvais match.
Ah oui.
Essayer de le tester, c'est un bon bref.
Ouais, enfin, c'est pas parce que Mac Jones se fait intercepter en début de match que tu arrêtes de le tester, quoi. Donc pourquoi, sur le simple fait que J.J. Taylor fait un fumble, tu oublies complètement ton jeu au sol. Et ça me paraît dingue de me dire qu'un coach comme Belichick se dit de toute façon, le run stop des Bucks, c'est compliqué, on va tout mettre sur la passe. Les Rams les ont battus la semaine dernière. Leur meilleur coureur, enfin c'était Sonny Mitchell, je crois. Il fait 60 ou 70 yards quand même. Donc, tu as quand même un minimum syndical. Et on ne parle pas d'un match où les Pats sont constamment courus après le score à 10 ou 15 points d'écart. Ils étaient constamment dans le match. Donc, je ne comprends pas ce play call offensif des Pats.
Je voulais pas le gagner.
Raphaël, ton flop. Oui, par politesse.
Sincèrement, bref. Non, c'était Bill Belichick et cette décision. Enfin, on l'a assez encensé sur toutes ces années de podcast en termes de coaching, etc., pour aussi des fois mettre en avant quand il fait des choses stupides. Et là, pour le coup, vraiment, cette décision de taper le field goal, pour moi, elle n'a pas de sens. 56 yards sous la pluie, sous le vent. Nick Folk, qui a un kicker correct, mais qui n'est pas un Justin Tucker. Tu joues une 4 et 3 face à une défense en face qui a beaucoup de blessures. Justement, teste Mac Jones, mets-le en situation, en quarterback rookie, d'avoir un match qui se joue sur une quatrième à la passe. Enfin, je sais pas, je comprends pas ce choix. Et surtout que derrière, en plus, tu rendais la balle à Tom Brady une minute, même si tu avais mis le field goal. Je pense que tu sais un peu qui est Tom Brady, Bill Belichick doit le savoir. Enfin, je sais pas, je comprends pas. À un moment, je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'ils veulent le gagner, ce match-là? Et je trouve ça d'autant plus dommage que c'était pas loin d'être le meilleur match des Patriots cette saison. Défensivement, c'était leur meilleur match de la saison, et offensivement, sur le jeu aérien purement, c'était pas loin d'être la meilleure prestation de la saison d'un point de vue aérien pour les Patriots. Donc je comprends pas. Voilà,
je suppose que c'est ton flop, Raphaël.
Tout à fait.
C'est comme ça que c'était. Non, j'ai pas de dire de flop, moi, tiens, d'ailleurs. Teddy Bridgewater et les Broncos. Alors, évidemment, ça pourrait paraître cruel de s'en prendre à un mec qui est blessé, qui a une commotion cérébrale et qui a perdu. Alors, c'est pas du tout contre eux. Hein. C'est juste que je me suis ambiancé sur eux la semaine dernière et on va encore dire que c'est de ma faute. Donc, si les équipes pouvaient arrêter de perdre quand je m'ambiance sur eux, ce serait sympa parce que les gens ont peur de moi sur Twitter. Je commence à avoir l'impression que mes amis ne veulent plus me serrer la main. Au début, je croyais que c'était le Covid, mais je sens quand même qu'il y a des gens qui commencent à avoir physiquement peur de moi. Et cette réputation que je commence à traîner sur les réseaux sociaux, je vais devoir engager une firme comme ça de e-réputation qui va enlever tous les posts qui disent que je fous la choumoune à tout le monde parce que ça va finir par arriver sur LinkedIn. Et puis, du coup, je pourrais plus trouver d'emploi dans toute ma vie. Enfin,
si tu veux, à Saint-Denis, j'ai des envoûteurs et des marabouts. Hein.
Ah oui, ouais, je vais peut-être finir par devoir appeler ça. Je suis désolé, j'en veux un peu à Teddy Bridgewater aux Broncos parce que du coup, on l'a vu, ça m'a rendu terriblement aigri. J'ai écrit un article à charge d'une violence inouïe contre les Ravens derrière. Vous le voyez, je suis complètement bouleversé. Je suis une choumoune humaine maintenant, visiblement. Merci d'arrêter. Je sais pas sur qui ça va tomber cette semaine, mais bon, voilà. C'est comme ça que se termine l'épisode 435 du podcast Jean Actu. On remercie tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Il y en a plein cette semaine. Swof99, Marc Coropocles, à chaque fois je le prononce mal, Julius Maximus, No More Mr. Nice Guy, Melchion, Johan, je ne sais jamais, Coucoulem, Pierre Charleux, Osiris, Onirim M, Raph49ers et Obsidian. Il y a pas mal de monde parce qu'il y a les nouveaux sous-verts, je vous le rappelle, dédiés à Londres. On a pas mal de sous-verts sympas qui arrivent. Tous les premiers du mois, il y en a un nouveau. Et il y a une édition spéciale qui va arriver là au milieu du mois d'octobre. Pour nous suivre, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @JeanActu en entier, Raphaël _TDA pour Raphaël sur Twitter, @YellowRadioSa pour Greg, @AlainMattei pour moi-même, toute l'actu de la NFL, c'est donc sur TDActu.com. On vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve jeudi pour parler donc de la semaine 5, puisqu'on arrive déjà à la semaine 5, et donc des Steelers. Je vous ai déjà un peu teasé tout ça. Merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup Greg. Très bonne soirée à tous les deux. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Rocast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on...